Eh bien, ce matin, par la grâce de Dieu, entretenons-nous de la joie de l'obéissance. Il y a toutes sortes de joies sur la terre, et il y a une joie particulière qui est celle d'obéir. Et nous allons prendre deux passages de référence, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, autrement dit dans d'autres versions, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, et qui, en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et puis, au chapitre 5, verset 7 à 10, dont il a été question dans l'introduction. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et qui a été exaucé à cause de sa piété. C'est lui qui a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors ici, il est question des souffrances du Fils de Dieu, de l'obéissance du Fils de Dieu à travers ses souffrances, mais en vue de la joie qui lui était réservée, dit le passage premièrement lu, Hébreux chapitre 12. Question d'obéissance, question de souffrance. La joie vient après. Parce que l'obéissance en a coûté au Fils de Dieu. Encore un passage qui le dit clairement, hein, Philippiens chapitre 2, à partir bien sûr du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, comme cela vient encore d'être prié, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'obéissance de Christ à travers ses souffrances a porté son fruit, la récompense. Et là, il en jouit déjà, bien sûr, de cette récompense, comme c'était annoncé dans le psaume et que c'est repris et cité par Pierre dans son premier message de la Pentecôte, hein, au chapitre 2, versets 26 à 28. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Oui, Jésus est entré dans la joie du Père. Il bénéficie du fruit de son engagement, son œuvre de salut. Grâce à lui, à son obéissance, nous avons reçu le pardon de nos péchés, la promesse de la justice. Adam avait désobéi, il a entraîné l'humanité dans le péché et la mort. Christ a obéi et il nous offre la justice de Dieu. Ça, c'est le résultat, c'est le moment de son sacrifice. Mais comment cela a-t-il commencé? Quel est le fond de cette obéissance? Eh bien, c'est la joie. Le commencement de l'œuvre de Dieu s'est fait dans la joie. Il y a un passage en particulier dans le livre de Job, au chapitre 38, verset 7 de Job. C'est tout un passage donc où Dieu interroge Job et il lui dit donc où étais-tu quand je posais les fondements de la terre, etc. Et au verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. On imagine ce foisonnement de la création, les étoiles, le ciel qui se déploie et les étoiles qui crient leur joie et les fils de Dieu, donc, qui se réjouissent, les anges qui se réjouissent de l'œuvre qui est en train de s'accomplir, qui se réjouissent de la création. Le temps de la création était un temps de joie, d'allégresse, d'émerveillement devant cette œuvre de Dieu qui se déployait. Et puis il y a un autre passage un peu différent au sujet de la sagesse de Dieu par laquelle il a créé le monde dans les Proverbes, au chapitre 8. Je prends à partir du verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Voilà encore une fois ce qui s'est passé lors de la création, dans la sagesse de Dieu. La sagesse qui est ici personnifiée, la sagesse qui est dans le Fils et par laquelle Dieu manifeste ses œuvres. Eh bien, tout cela se fait dans la joie, dans le bonheur, dans les délices. C'est là ce que Dieu fait et le caractère de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, même encore maintenant, le soleil se réjouit. Le soleil manifeste la joie de Dieu d'apporter la lumière sur la terre, puisque c'est ce qu'il est dit au psaume 19, versets 6 et 7. Et le soleil, semblable à un héros, je prends exactement. Non, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Soleil s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il continue à porter en quelque sorte la joie de Dieu d'apporter la lumière de la vie sur la terre. Ça, c'est la présence, l'action, l'œuvre de Dieu. Elle est faite initialement dans la joie. Et donc, voilà, nous venons, nous sommes le produit de cette joie de Dieu de créer, d'amener la vie à travers son Fils. Et donc le Fils participe à l'œuvre du Père. Il en est l'agent, le réalisateur, l'expression. Et Dieu engendre le monde dans, on peut dire, l'obéissance de son Fils. Et tout est joie à ce moment-là, parce qu'il y a un plein accord entre les deux. Ce matin, je lisais dans le texte de la Genèse au sujet du sacrifice d'Isaac par Abraham, et à un moment donné, il est écrit donc, et ils marchaient tous deux ensemble. Ils marchaient tous deux ensemble, le père et le fils, Abraham et Isaac. C'était pour le sacrifice que Dieu allait arrêter, mais et qui annonce justement le sacrifice de Christ. Mais ils marchaient tous deux ensemble. Ben, dès le début, dès le commencement de la création, le Père et le Fils sont ensemble. Ils agissent ensemble. Ils font l'œuvre ensemble. Et ils sont d'accord et ils sont dans la joie et la communion ensemble. Et jusqu'à ce moment, justement, où il va y avoir l'œuvre de la croix. Et ils sont toujours ensemble pour cela. Et en venant dans le monde, donc le Fils de Dieu est toujours dans la communion parfaite de son Père. Il dit dans l'Évangile, donc ça c'est l'Évangile selon Jean, il y a beaucoup de paroles de cette nature, hein, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. De la même façon au sujet des paroles, Jean chapitre 8, verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Verset 38 également. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Au chapitre 12, verset 49 à 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Puis enfin, chapitre 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous voyez cette parfaite communion, cette parfaite union entre le Père et le Fils, que ce soit pour les œuvres, que ce soit pour les paroles, c'est la manifestation de la pensée, de l'œuvre, de l'amour du Père qui se manifeste et se réalise par le Fils. Et tout cela dans la joie. non pas dans la, voilà, non pas de façon contrainte, non pas de façon difficile. Jésus peut dire, donc, au sujet de ses apôtres, hein, qu'il, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et pareil au chapitre 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Tout ce parcours, tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus disait, il le faisait dans la joie, dans cette joie d'accomplir la volonté du Père. Jésus est dans l'obéissance du Fils, pas dans l'obéissance de l'esclave. Il partage les intentions du Père et réalise l'œuvre du Père. De même, pour notre obéissance. Notre obéissance commence et ne peut s'épanouir que lorsque nous nous découvrons fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous allons aussi entrer, commencer à obéir parce que nous nous découvrons fils et filles de Dieu. Et ce ne sera pas une obéissance difficile, c'est une obéissance joyeuse, aimante. Tous les ressorts d'une vie chrétienne épanouie, c'est l'obéissance de la foi lorsque nous découvrons que Dieu a voulu nous faire de nous des fils et des filles par le don de Jésus-Christ. La foi nous ouvre les yeux sur l'amour du Père et nous donne l'obéissance du Fils. Voilà ce qui se réalise lorsque nous nous convertissons, lorsque nous recevons la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que le Fils fait volontiers la volonté du Père. Et cela, c'est une règle générale lorsqu'un fils est enfant ou une fille. Mais peut-être restons sur la relation père-fils. Un fils fait volontiers la volonté du Père. Il aime faire la volonté du Père. Et moi, je suis désolé de voir que, justement, beaucoup d'enfants aujourd'hui ne peuvent plus connaître cette joie, tout simplement parce qu'ils ont des pères qui n'expriment aucune volonté pour la vie de leur enfant. Aucune intention précise pour la vie de leur enfant. Alors bien sûr, après il y a la période de l'adolescence, etc. Hein, on connaît les révoltes de l'adolescence. Mais un enfant, un fils aime répondre à la volonté de son père, à l'intention de son père. Il imite le père. Il veut accomplir les œuvres du père. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, eh bien, il nous est tout naturel d'agir comme Jésus a agi, d'aimer comme Jésus a aimé, de nous engager comme Jésus s'est engagé. Et c'est, comme Jean le dit, une obéissance qui n'est pas pénible, ses commandements ne sont pas pénibles. Alors dans son obéissance, joyeuse et résolue, qui était là dès le commencement, le Fils de Dieu a découvert ce pas de plus. Ce pas qui va tout changer, puisqu'il va nous amener, nous, dans sa joie. Mais là, quand même, à travers ses souffrances. Et là, c'est l'angoisse de Gethsémané. Et là, c'est la souffrance de la croix. c'est l'épine, c'est le rejet, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le passage obligé. Et Jésus, là, ne va pas se dérober. Il ne va pas se dérober à la volonté du Père, même que justement, à ce moment-là, il est privé, il sait qu'il va être privé, il l'accepte, il est privé de la présence de son Père, de cette communion avec son Père. Et là, il réalise notre salut. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ce caractère d'obéissance propre au Fils de Dieu que Jésus a inauguré pour nous, personne ne pouvait le faire à sa place, doit aussi être appris par ceux qui veulent hériter du salut. Bien sûr, Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, dans notre obéissance, il arrive aussi ces temps de renoncement, ces temps de souffrance, ces épreuves dans la foi que nous avons en notre Seigneur. Mais nous pouvons nous y engager et nous pouvons le faire avec confiance parce que il y a la même promesse pour nous que pour le Fils, la promesse de la récompense, la promesse de la délivrance, la promesse de la joie parfaite auprès du Père lorsque le temps sera venu. Nous entrerons nous aussi dans la joie de notre Seigneur, nous rejoindrons le Fils dans sa gloire et nous bénéficierons donc voilà, de l'amour et de la justice éternelle du Père céleste. La joie était au commencement, la joie sera à la fin. Et pour ceux qui entrent dans la foi, et c'est la même chose, au commencement de la foi, il y a la joie. Il y a la joie du salut, il y a la joie de la découverte de l'amour de Dieu. Elle est précieuse, cette joie, elle nous engage dans la vie nouvelle. Et à la fin, il y aura la joie de la délivrance finale, la joie des perfections de Dieu. Mais entre deux, il faut reconnaître qu'il y a aussi une obéissance qui coûte. Il y a aussi une obéissance dans et à travers des souffrances. L'apôtre Paul a exprimé cela pour sa propre part, parce qu'il était totalement consacré à l'édification des chrétiens, de l'Église de Jésus-Christ, et il n'a pas eu honte de dire tout ce qu'il souffrait pour cela, mais en même temps il dit qu'il le fait avec joie, que c'est sa joie d'obéir et d'être à disposition de Dieu pour le salut de ses enfants. Eh bien, nous, à notre propre mesure, eh bien, il y a aussi cet aspect dans notre vie chrétienne, mais régulièrement, nous devons nous rappeler, et nous le faisons, lors justement des temps de louange, et puis dans notre communion, hein, nous devons nous rappeler que le point de départ, c'est la grâce de Dieu, c'est la joie de son amour, c'est la joie de sa sagesse, de découvrir sa sagesse, ses plans parfaits, sa vérité, sa justice. C'est cela qui, au départ, nous attire à lui et nous sauve. Et il ne nous trompera pas, il ne nous décevra pas dans cette attente. Amen.